C'est towards the end of the apostle John's life.
Vers la fin de la vie de l'apôtre Jean, il a écrit le livre de l'Apocalypse, l'un des livres les plus controversés qui parle des temps de la fin, de la tribulation, de tous les événements qui vont avoir lieu à la fin des temps. Qu'est-ce que toutes ces choses veulent dire? Je voudrais commencer une série de sermons que je vais donner sur Apocalypse chapitre 2 et 3. Parce que les messages dans chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse sont dirigés vers une audience très particulière. Dans Apocalypse chapitre 1, j'ai dit à ma femme, une chose que je ne vais pas parler à l'Assemblée aujourd'hui, c'est de politique. Je ne vais pas parler de la politique. J'ai besoin de parler de la Bible. Nous devons parler de la Bible. Bien sûr, je viens juste de dire le mot politique. Ah, oh.
Ouais.
Ah. Oh. Apocalypse 1, verset 9. Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation au royaume, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de ses juges. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Nous savons qu'il s'agit de Jésus-Christ ici où il dit ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux sept églises. C'était en Asie à l'époque. C'est ce qu'on nous appelons aujourd'hui la Turquie. C'est l'Asie mineure, la Macédoine et l'Asie mineure. Et à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il y avait sept églises. Et ce livre était originellement envoyé à sept groupes bien spécifiques de congrégations. Dans ce passage, nous voyons trois façons principales par lesquelles les gens interprètent ce passage d'Apocalypse 2 et 3. L'une des façons d'interpréter est que ce message s'appliquait aux églises de cette époque-là, qui n'en ont rien à voir à nous aujourd'hui. L'autre, c'est que les églises représentent sept différents types de chrétiens, d'attitudes qui existent dans toute l'histoire. Et une troisième, c'est que ces sept églises ont un aspect prophétique qui représente cette ère de l'Église, de l'Église de Dieu. On n'est pas les seuls à avoir ces interprétations, l'interprétation des sept aires de l'Église. On n'est pas les seuls, mais les gens se disputent sur savoir quelle est la façon principale de regarder, de considérer cette église. Ce que je voudrais faire dans ce sermon, que nous devons aborder ces deux chapitres de ces trois façons pour vraiment comprendre. Nous devons le comprendre au niveau historique. Je sais que vous êtes peut-être fatigués de m'entendre dire ça, mais quand je lis quelque chose dans la Bible, je veux tout d'abord comprendre ce que cela signifie pour les gens à l'époque où ça a été écrit. Historiquement, il y avait sept villes, sept églises, sept congrégations qui ont reçu historiquement ce message. Nous savons aussi qu'il y a un message prophétique derrière ces choses-là. Mais il y a aussi un message pratique, un message qui dit que est-ce que ces messages à cette église ont une importance quelconque pour vous et moi aujourd'hui? Pouvons-nous lire concernant l'église de Smyrne et en tirer quelque chose qui s'adresse à nous aujourd'hui? Je crois que c'est un message pour chacun d'entre nous aujourd'hui, en plus du message prophétique de l'Apocalypse. Nous verrons qu'à la fin de chaque lettre aux églises, toutes les autres églises ont reçu l'ordre de les lire. toutes les églises étaient supposées le lire, ce qui veut dire que ce que nous allons faire pour ces 7 sermons, c'est que nous allons parler à chacun de ces villes, de ces congrégations originelles et parler de leurs conditions au niveau historique. Nous allons également découvrir qu'on pourrait revenir en arrière et trouver une connexion avec ces vrais chrétiens de l'Antiquité, de ce temps-là. Ils avaient les mêmes difficultés et ces messages ont quelque chose à dire à chacun d'entre nous. J'ai une carte ici et ce que vous voyez ici, c'est la ville de Éphèse, Pergame, toutes les villes. Et ce que vous pouvez lire, c'est ces villes qui se trouvent près de la mer d'Agiane. Et il y a ces îles que vous voyez ici sur le côté, à l'est, c'était la Grèce et la Sicile, un peu plus loin. Donc, vous regardez ici, principalement, l'endroit qui est aujourd'hui la Turquie. Et au sud d'Éphèse, se trouvait l'Égypte de l'ouest, de l'Égypte. Je devrais regarder une carte, mais la Méditerranée est au sud de cette carte. Ce qui est intéressant ici, souvenez-vous que je donne des sermons vous savez, souvenez-vous que l'Empire romain avait créé un environnement dans lequel il y avait des courriers qui étaient qui passaient sur une route de congrégation. Les Romains avaient un système de courriers et ils voyageaient à travers leur empire. Et ces lettres pouvaient être envoyées par Jean à chacune de ces églises à travers l'Empire romain. Il y a d'autres congrégations, ici également Jean, qui n'étaient pas spécifiquement mentionnées. Mais il y avait davantage d'églises que cela dans cette région. Par exemple, si vous voyez l'île de Patmos, c'est là où Jean se trouvait lorsqu'il a écrit ce livre. Certains disent, qu'est-ce qui s'est passé après qu'il ait écrit l'Apocalypse, certains disent qu'il a écrit l'Apocalypse aux environs de 95 après Jésus-Christ, et certains disent qu'il a été libéré de Patmos et qu'il s'est retrouvé à Éphèse. Et c'est pourquoi nous avons certaines affirmations d'historiens qui vivaient au deuxième siècle, de gens qui gardaient la Pâque et qu'il ne fallait pas garder les Pâques. Et ils avaient été enseignés par l'apôtre Jean. Donc il se peut que l'apôtre Jean ait été libéré de Patmos et qu'il soit allé qu'il ne soit pas mort à Patmos. On n'en est pas sûr, mais c'est possible qu'il ait vécu une petite période de sa vie à Éphèse. Éphèse est une ville très importante dans l'Empire romain. Sa population était probablement d'environ 3000 habitants, ce qui n'est pas très gros pour nous aujourd'hui, mais qui était absolument énorme à l'époque. Les choses n'étaient pas toujours bien comptées non plus, mais nous savons qu'à un moment donné, 1 million de gens vivaient à Rome, mais 300 000 personnes étaient vraiment quelque chose d'énorme à l'époque. Et Éphèse il y avait un port. Si personne n'a jamais été à Éphèse, j'en ai vu des photos. Le port n'est plus là. Il a été rempli. L'ancienne ville d'Éphèse est plus loin que la plage maintenant parce que il y a beaucoup de sédiments qui se sont accumulés dans le port et donc la vieille ville d'Éphèse n'est plus au bord de la mer. Mais c'était un centre de commerce très important un port et c'était une ville assez riche. Il y a des photos de l'amphithéâtre à Éphèse. L'Empire romain qui existait à l'époque pouvait compter 25 000 personnes, ce qui est beaucoup, n'est-ce pas, pour l'époque. C'était juste l'amphithéâtre. Les gens pourraient y aller pour s'amuser, pour des discours politiques. Il y avait toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens allaient à l'amphithéâtre. C'est beaucoup de gens dans un seul endroit pour le monde antique. Souvenez-vous que ces villes étaient beaucoup plus complexes qu'on ne le réalise parfois. Lorsque nous avons enregistré le programme de Beyond Today à Berlin, nous avons enregistré juste devant les murs de Babylone, qui il y avait des portions du mur de Babylone qui avaient été ramenées à Berlin. Et à un moment donné, j'avais un moment creux et j'ai dit à Darius McNally, j'ai dit, on va passer à travers sa porte, il faut passer à travers et revenir. Une porte dans le mur, on était les seules personnes dans le minéum, dans le musée, parce qu'on filmait dans cette région de là. Alors, j'ai marché dans ce grand bâtiment énorme et je me suis retournée et voilà la façade complète de ce qui aurait été un palais à Pergame. Et j'étais absolument fascinée. C'était plus grand que les murs de Babylone. Je me tenais là en train de regarder ce mur énorme, cette complexité, les pierres de plusieurs couleurs, etc. Il y avait une partie en allemand, en français, en anglais. Vous pouvez lire les Alliés avaient bombé le musée pendant la guerre. Mais une partie de la façade s'était effondrée et ils avaient pris d'autres pierres pour les remettre. Ils ont trouvé un moyen de le reconstruire. Mais c'était quelque chose de vraiment complexe, ce qu'ils construisaient à l'époque. Lorsque nous pensons à Éphèse, nous pensons à ces villes, peut-être. Ils n'étaient pas des petits villages sans conséquence. Nous parlons de villes importantes de l'Empire romain. Au début des années 50, après Jésus-Christ, avant d'aller dans le livre de l'Apocalypse, ce que Christ dit de cette congrégation, nous allons comprendre ce qui rend l'Église d'Éphèse si unique. Nous allons l'Église à Éphèse, à une période d'environ 50 ans, nous savons que Paul arrive au début des années 50 et Jean écrit son livre entre 55 et 100 après Jésus-Christ. Et nous savons environ ce qui se passait à Éphèse à cette époque-là. Reportez-vous à Actes, verset 18, parce que sans savoir et comprendre cela, le message à Éphèse n'a pas autant de signification. Pourquoi est-ce que le Christ dit de bonnes choses et de mauvaises choses à Éphèse? Considérez leur histoire, l'histoire de ces gens qui se sont tournés vers Dieu et il y avait une congrégation. Et nous ne savons pas combien de temps elle a existé. Nous savons qu'à la fin du Nouveau Testament, il y a encore une église à Éphèse. Nous ne savons pas combien de temps elle a existé après ça. Dans Actes 18, verset 19. En parlant de Paul, ils disent, et avec ceux qui l'accompagnaient, ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons, c'est-à-dire Aquila et Priscilla. Étant entrés dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé, en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Il partit d'Éphèse. Il arrive et il commence à leur parler aux Juifs à la synagogue. Et c'est là où Paul aurait commencé toutes ses églises. Ils avaient à l'époque, l'Ancien Testament était leur Bible et ils le lisaient dans la synagogue, à moins que vous étiez très riche et que vous ayez la Torah, la Bible. À travers l'Asie mineure, la langue qui était parlée était le grec. Et Paul se dirige vers Ésaïe 32, verset 33, en parlant du Christ qui vient en tant que Messie. Je peux deviner les passages que Paul allait se référer dans l'Ancien Testament pour commencer ses églises. C'était des gens qui craignaient Dieu déjà, qui étaient des Juifs, et qui se dit peut-être qu'il a raison. Il a quitté Éphèse, mais après qu'il soit parti, il y a des enseignants qui sont venus sous le nom d'Apollo. Et nous voyons Apollo était à Corinthe également. Nous voyons qu'il allait enseigner la vérité divine. Mais à Corinthe, il a peut-être causé plus de problèmes qu'il n'en a résolu. Mais Paul voulait que Apollos revienne pour résoudre des problèmes qui arrivaient à Corinthe et Apollos ne voulait même pas y aller. Mon opinion personnelle, c'est peut-être qu'il a aidé à les causer, les problèmes à Corinthe. Mais Apollos arrive après que Paul soit parti et il commence à baptiser les gens. Mais il sait qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il ne connaissait pas vraiment comment baptiser. Il ne donnait pas l'imposition des mains. Alors, Aquila et Priscilla, qui avaient voyagé avec Paul depuis longtemps, Aquila et Priscilla le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu, au verset 26. Alors, il commence cette petite congrégation. Paul essaye Apollos essaye de les enseigner, mais il lui manque un peu de connaissances. Alors, Aquila et Priscilla l'aident, et à un moment donné, peut-être un an environ après que Paul soit venu pour la première fois, Paul revient. Et reportez-vous au chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de la vie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Donc, il veut revenir, il revient à Éphèse et il va à la congrégation et leur dire « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Et leur raison, on ne sait même pas ce que cela veut dire. Apollos ne leur avait pas enseigné. Souvenez-vous, il ne connaissait que le baptême de Jean. Il dit donc « De quel baptême avez-vous été baptisé ?» et il leur répondit « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Vous pensez qu'il y avait peut-être des familles, peut-être une trentaine de personnes, d'adultes. Et ainsi, cette congrégation s'est formée, mais ça n'allait pas vraiment nulle part parce que le Saint-Esprit n'était pas dans les gens. Et maintenant, l'Esprit de Dieu est en eux et les choses commencent à changer. Au verset 8, ensuite Paul entra dans la synagogue. Il dit, non, je vais continuer à leur prêcher. Où il parla librement pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira à Dieu, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Ce que Paul a fait, c'est qu'il est chassé de la synagogue, alors il va louer un endroit quelque part dans une école de philosophie. L'école de philosophie ne se souciait pas de la philosophie que voulait enseigner Paul. Il y va tous les jours en disant, c'est là où j'enseigne. Les gens de l'église sont venus vers lui, les juifs et les grecs sont venus vers lui. Et il enseigne combien de gens, on ne sait pas, mais l'église commence à grandir. Au verset 10, cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ils venaient d'un peu partout, de l'Asie mineure, pour entendre parler de cette nouvelle forme de religion, de judaïsme. Ils pensaient que c'était du judaïsme. Alors Paul revient et ils ont maintenant une assemblée. Et ils ont, pour la première fois, donc, une église chrétienne, puisqu'ils ont été chassés de la synagogue. Et ils commencent à faire des miracles. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. La plupart d'entre nous n'ont... Il est difficile de comprendre quand on n'a pas vécu dans une société vraiment complètement païenne. Ils croyaient aux possessions démoniaques, ils avaient toutes sortes de croyantes, ils pensaient que tous ceux qui avaient des maladies mentales étaient en contact avec, les démons. Pour eux, c'était un peu comme avoir une maladie mentale, c'était un peu comme avoir un badge d'honneur qu'ils étaient capables de contacter les esprits. Et ils en profitaient pour... faire de l'argent avec les gens qui étaient malades mentaux en prétendant qu'ils étaient capables de contacter les esprits malins. Et Paul et ces gens sont venus dans l'église. Il y a ces gens qui sont entrés dans l'église qui ne sont pas des juifs. Ils étaient des Grecs, des païens, et c'est l'engagement absolu d'abandonner leur voie de vie qu'ils avaient. Le paganisme était un mode de vie, ça rentrait dans tous les domaines de la vie, tout était gouverné. Vous ne pouviez pas faire une cérémonie sans qu'il y ait quelque chose de païen. Qui entre dans la cérémonie. Les gens avaient des petits dieux dans toutes les maisons. Ainsi, il enseigne ces gens, et je voudrais que vous remarquiez leur réponse au verset 18 du chapitre 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Tout ce qu'ils faisaient dans le monde païen avait rapport à la magie. Et les choses étaient causées par les dieux, les nymphes, les toutes sortes de choses en qui ils croyaient. C'était quelque chose de très complexe. Et on estima, ils emportaient leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Voici une église qui vraiment se tient devant la société dans laquelle ils vivent et font quelque chose de très public pour démontrer leur engagement à Dieu. Ils ont brûlé leurs livres en public, devant tout le monde. Et ils ont compté la valeur de tous ces livres. 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ces pièces d'argent étaient probablement la drachme qui était une drague, mettait en général le salaire journalier d'un travailleur. Ça veut dire 50 000 jours de travail. C'était pas une petite cérémonie pour brûler les livres toutes petites. C'était beaucoup de livres qui ont été brûlés. Et ils voulaient dire devant tout le monde qu'ils quittaient leur société païenne. Ils ne faisaient plus partie de cette société païenne et ils croyaient maintenant en quelque chose d'autre. L'histoire de l'église d'Éphèse est incroyable, d'un groupe incroyable de gens qui avaient vraiment du courage. Le temple de Diane était là, c'était l'un des sept merveilles du monde de l'Antiquité. Diane, la déesse Diane, et son adoration étaient présentes dans toute cette région. Et là où que vous alliez, il y avait des gens qui adoraient Diane. Ils choisissaient quel dieu ils voulaient adorer. Et si c'était un dieu puissant ou une déesse puissante, alors tous les gens à travers l'Empire romain voulaient les adorer. Mais Éphèse était le centre de l'adoration de Diane, était à Éphèse. Donc, ces petites statues étaient vendues, ces petits charmes, des petits bracelets qui étaient supposés les vendre au marché, et ils faisaient énormément d'argent avec ce centre d'adoration de Diane. Et voici l'église d'Éphèse ici quitte tout cela, tout le monde, la société qui les entourait. Si vous lisez ce qui se passait, que certains des orfèvres de l'époque de la région n'étaient pas contents parce que eux, ils faisaient de l'argent avec cette adoration. Au chapitre 20, il dit « Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, il les avait... Je ne sais pas quel passage, il dit, merci, mais peut-être que c'était au verset 20, pardon. Il décrit que les marchands d'Éphèse étaient vraiment fâchés parce qu'ils perdaient de l'argent à cause de la prédication de Paul. L'histoire était que Diane était créée à partir d'une pierre qui était tombée de Zeus. Et il y avait un rocher à Éphèse que les gens croyaient était magique. Et il disait que ce rocher était venait de Zeus directement. Et les gens commencent à attraper les chrétiens et ils sont pas contents parce que ils perdent de leur argent et toute leur croyance est mise en question. Et le gouverneur dit arrêtez ça. Il y a une petite garnison à Éphèse romaine. Mais il y avait des messages qui pouvaient arriver à la garnison romaine, et le gouverneur dit « Si on n'a pas ça hors de contrôle, nous allons avoir 5000 soldats qui vont arriver dans la ville et ils vont tuer tout le monde. » Alors, les Romains n'aimaient pas le désordre. Ça leur était égal qui vous adoriez, mais ils n'aimaient pas le désordre social. Néron, une fois, a tué des gens révoltaient et il les a massacrés dans l'amphithéâtre, 15 000 personnes. Les Romains voulaient simplement faire de l'argent, payer leurs impôts. Soyez gentils, ne causez pas de problème, mais si jamais vous commencez à causer le désordre, les Romains avaient tendance à utiliser un gros marteau pour tuer une mouche. Ils étaient cruels. Alors, à ce moment-là, Paul, après avoir travaillé avec tous ces gens, il quitte Éphèse. Un peu plus tard, probablement vers 55 après Jésus-Christ, Paul est arrivé environ 51 après Jésus-Christ, 51-52, et vers 55 après Jésus-Christ, Paul voyage et il arrive à Mytilène, c'est un peu au sud d'Éphèse, et il sait qu'il n'a pas le temps d'aller jusqu'à Éphèse. Alors, il envoie un message que tous les anciens, l'Église avait grandi, il y avait beaucoup de ministres, il y avait plusieurs ministres, et il leur demande aux anciens de venir pour leur parler parce qu'il n'a pas le temps, lui, d'aller jusqu'à Éphèse. Donc, il leur demande de venir le rencontrer. Ce qu'il leur dit les laisse en pleurs. Ils sont dévastés. Ça commence au verset 17 de Acte 20. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit : Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Il leur dit : Je suis quand même resté avec vous, je vous ai aidé à créer votre Église. Et il parle de leur histoire, comment est-ce qu'il leur a enseigné le royaume de Dieu, et comment il avait donné beaucoup d'énergie, tout ce qu'il avait à donner, et maintenant il avait peur pour l'église d'Éphèse. Il leur dit aussi qu'il ne pourra probablement pas revenir, qu'il va aller à Jérusalem, et je ne suis pas sûre ce qui va m'arriver à Jérusalem, mais probablement je ne pourrai jamais revenir. Dieu m'envoie à Jérusalem et c'est ça la dernière fois que vous me verrez. Au verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquérie avec son propre sang. Il dit c'est à ses anciens ministres, donc il s'inquiétait beaucoup de l'Église d'Éphèse. Il y a passé 3 ans environ. Il est parti, revenu, mais il avait vu cette église croître et grandir. Et maintenant, il savait qu'il y aurait un problème que cette église allait devoir faire face. Il dit au verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Et vers la fin de son discours, ils sont tous en larmes. Ils sont en train de se dire au revoir et ils réalisent que l'importance de ce que Paul venait de leur dire, que leur église, leur congrégation allait devoir faire, que des gens qui seraient venus de cette église, des juifs ou des grecs, probablement les deux, allaient enseigner de faux enseignements et certains des anciens, certains des ministres seront séduits par cela et que cela diviserait leur église. Par conséquent, Paul s'en va après cela. Il n'a jamais pu revenir à Éphèse, et c'est intéressant qu'il leur a envoyé une lettre. Nous avons une lettre, nous lisons ce livre d'Éphésiens tout le temps. Donc cela est peut-être 5-6 ans après qu'il ait rencontré les anciens. Il leur envoie une lettre. Et l'enseignement principal de la lettre qu'il leur donne dans le livre d'Éphésiens, ce sont des instructions comment fonctionner en tant qu'Église. Monsieur Keller a commencé cette série sur le livre d'Éphésiens. C'est très intéressant. Je l'ai entendu vendredi soir, la semaine dernière. J'ai dû m'arrêter et je recommande d'écouter sa série, son étude biblique sur le livre d'Éphésiens, parce que vous comprendrez davantage l'Église à Éphèse. Il y a certaines églises dans l'Apocalypse 2 et 3, congrégations dans lesquelles je me sentirais très confortable. Et c'est pour ça que ça me rend un peu nerveux dans ce sens, parce que certaines de leurs églises, je me sentirais pas à l'aise, mais dans l'église d'Éphèse, je crois que je me sentirais assez à l'aise. Et c'est là que vous réalisez qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui s'applique à moi. Derrière la carte que je vous ai donnée, il y a le résumé de la lettre aux Éphésiens. Il met l'accent sur le fait que Christ nous donne accès à Dieu le Père et qu'ils ont été appelés par Dieu et qu'ils sont l'œuvre de Dieu, que Dieu travaille dans leur vie, qu'il veut qu'ils comprennent que les Juifs et les Gentils font partie de la même Église. Il les encourage de ne pas perdre courage parce qu'ils souffraient certaines persécutions. Au chapitre 4, il se trouve certaines instructions les plus détaillées sur la raison d'être des anciens ministres et pourquoi il y en a dans l'Église et comment est-ce qu'ils quel est leur travail, comment ils peuvent aider aux anciens ou aider la congrégation. Et il leur dit, voici donc ce que votre travail est à ceux qui sont ordonnés. Et il leur dit que chaque chrétien qui vient doit combattre le péché. Il utilise le mariage pour, en tant qu'analogie entre le Christ et l'Église. Et c'est donc intéressant qu'il donne ici des instructions personnelles, surtout dans le sujet, qui explique ce que cela veut dire que de faire partie d'un groupe dans l'Église, ce que font les anciens, le but et ce que Dieu veut que nous soyons. Il voulait comprendre que leur Église à Éphèse n'était pas juste un groupe de gens, mais qu'ils étaient liés ensemble par l'Esprit de Dieu. Et c'est très important, lorsque ce dont il ne leur parle pas, c'est qu'il y aurait de l'hérésie. Et pourtant, il avait prévenu les anciens qu'il y aurait des hérésies. Et mais pourtant, on dirait que au moment où il a écrit sa lettre, ces hérésies n'ont pas vraiment eu lieu encore. Donc, Paul n'en parle pas, car ce n'était pas encore un problème. L'Église avait grandi, et c'était une Église vibrante, et c'était une congrégation remarquable. Beaucoup d'Églises étaient petites, mais l'Église d'Éphèse a eu un impact énorme sur une ville, sur la ville d'Éphèse. Ils ont brûlé leurs livres publiquement, ils prêchaient publiquement sur une ville de 3000 personnes. Par exemple, la ville de Corinthe avait des problèmes depuis le début, elle a toujours gardé ses problèmes, et nous voyons que les 10 premières années de la ville d'Éphèse, ça avait commencé avec des Juifs qui venaient de la synagogue, et ils se sont fait sortir de la synagogue. Ils se sont fait, les païens commencent à répondre en nombre important et ils renoncent au paganisme et ils le faisaient souvent publiquement et souvent cela les handicapait au niveau de leur société. Aujourd'hui, si vous voulez respecter le sabbat, les gens s'en fichent un peu. Ils pensent que peut-être que vous êtes un peu bizarre, mais pour les gens de l'époque, de dire je vais quitter la société païenne, c'était énorme. Tout dans la société était basé là-dessus. Ce n'était pas juste une relation, une religion, c'était au centre même de leur vie. Et pourtant, ils l'ont fait publiquement. Ils ont été persécutés. À un moment donné, ils ont fait face à une émeute. Et ils sont restés forts. Éventuellement, ils ont dû faire face à des fausses doctrines. Mais en 60 après Jésus-Christ, cela n'avait pas eu lieu. Nous pensons peut-être que 4 à 5 ans après que Paul a écrit sa lettre à Éphèse, aux Éphésiens, il écrit une lettre à Timothée. Et Timothée est en quelque sorte le pompier de Paul. À chaque fois qu'il y avait un problème quelque part, Paul envoyait Timothée pour calmer les choses. Et en 65 après Jésus-Christ, Paul a envoyé Timothée à Éphèse. Reportez-vous à 1 Timothée, chapitre 5. Je ne fais que trier la surface de ces choses, le type d'information qu'il y a dans le Nouveau Testament sur cette église est incroyable. Souvent, les gens disent « je veux étudier la signification prophétique de ces églises ». Et on devrait, mais si c'est tout ce que vous étudiez, vous ne comprenez jamais le message de ces églises. Et comment est-ce que ça s'applique à nous aujourd'hui? Dans 1 Timothée, chapitre 1 et au verset 3. Souvenez-vous que cela a été écrit à une personne. Ce n'est pas été écrit à un groupe de gens, mais c'est Paul qui parle à Timothée. Au verset 3, il est dit « Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Donc, il introduit ici un problème qui existe maintenant à Éphèse, qui n'existait pas au moment où il a écrit sa lettre à Éphèse. Ils avaient un amour entre eux qui venait d'un cœur pur, et l'Église est en train d'être divisée par ces discussions, ces fables, ces généalogies sans fin. Parfois, dans l'Église aujourd'hui, les gens se prennent la tête dans quelques fables. Avez-vous lu l'évangile de Thomas? En fait, je l'ai lu par curiosité historique. Et c'est un livre qui a été supposé être la vie de Jésus-Christ quand il était plus jeune. Et non, ce n'est pas vrai. C'est une fable qui n'a rien à voir avec la vérité. Les généalogies sans fin, on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. C'est intéressant, je crois que les commentaires juifs, c'est un commentaire biblique juif messianique qui dit que ces généalogies se réfèrent à si vous êtes un Israélite ou pas. Parce que si vous pouviez prouver que vous étiez un Israélite, les gens pensaient que vous étiez mieux vu par Dieu. Quelles que soient ces généalogies, tracer votre arbre de famille ne vous rend pas un meilleur chrétien. Paul leur dit, ça n'a aucune importance, et ça ne sert à rien, ce sont de vains discours. Ils se disputaient pour ces choses-là. À peu près 15 ans après que l'Église ait été formée, est en train de se diviser. Si vous allez au verset 6. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être des docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils parlent à Timothée de quelque chose qui se passe dans la vie de Timothée, et dit quels sont ces gens qu'il doit confronter. Ce sont des membres de l'église d'Éphèse. Il continue dans les versets qui suivent en disant que l'une Il dit que l'une des plus grandes explications de la loi du Nouveau dans le Nouveau Testament. Il explique que nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais que la loi nous donne une définition du mal et que la loi nous donne tout ce qui est et il répond aux problèmes ici, quels que soient les problèmes. Paul fait un argument concernant la loi, est une étude intéressante en soi. Il explique à ces gens quel était leur problème. Ça avait rapport avec les petits points mineurs de la loi, des fables, des généalogies et tout ce faux concept dans la façon d'appliquer la loi de Dieu. Et c'est là où nous en sommes sur ce que nous savons sur Éphèse. Et après ça, on n'entend pas trop parler d'Éphèse, mais 30 ans plus tard, environ ça, ce qu'il a écrit à Timothée en 65, mais Jean parle d'Éphèse à 95, donc 30 ans plus tard, nous avons une lettre aux Éphésiens, un message aux Éphésiens, les gens disant « mais c'est pour le futur ». Oui, mais c'était aussi été écrit sur un groupe spécifique de gens qui se trouvaient sur cette route de courrier de l'Empire romain. Alors, nous allons parler de la signification prophétique, évidemment, mais nous ne pouvons pas ignorer la réalité de ce qui est écrit ici pour nous aujourd'hui. Chacun de ces messages, nous avons quelque chose à apprendre de ce que cela veut dire qu'être une congrégation de l'Église de Dieu. Chapitre 1, verset 2. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Et voici ce que les paroles du Christ ici. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Quelle église formidable pour laquelle on aimerait vraiment en faire partie. 30 ans plus tard, et il leur dit, je sais tes œuvres et ta patience et ta persévérance et vous ne pouvez pas supporter le péché, vous ne pouvez pas supporter les gens qui font le mal. Vous y résistez dans votre propre vie. Et il dit, c'est bien. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Vous savez ce qu'on sait pour ça? Nous en revenons à Timothée. Si nous avions seulement ce que Paul avait écrit à Timothée, on ne saurait pas ce qui s'est passé à Timothée. Mais nous pouvons voir que ce qui s'est passé à Éphèse, c'est quand Timothée y est allé, c'est qu'ils ont eu une division. Et ils ont fait sortir de leur église ceux qui ne prêchaient pas la vérité. Et certains d'entre eux, comme avait dit l'apôtre Paul à tous ses ministres, certains d'entre vous vont prêcher des mauvaises choses. Ils ont eu donc une division dans leur église et l'église à Éphèse a continué de bonne façon. C'est une église très active, très occupée. Les gens venaient à l'assemblée. Ils connaissaient la vérité. Ils ne sont pas condamnés d'aucune façon pour des mauvais enseignements. L'église à Éphèse avait tous les bons enseignements dont ils avaient besoin. Ils ne sont pas condamnés pour aucun faux enseignement. Donc, la phrase suivante est submergente un peu parce que le Christ leur dit au verset 6, « Tu as pourtant ceci. » C'est que tu as... Non, je connais tes œuvres. « Ce que j'ai contre toi » au verset 4, pardon, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ils avaient la vérité, mais ils avaient perdu quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire que vous avez perdu votre premier amour? Vous savez, je me suis posé cette question souvent. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 30 ans? Pendant cette période de 30 ans, vous avez cette église et qui était tellement vibrante et qui grandissait, qui avait beaucoup de gens. Et j'ai réalisé avec le temps ce qui s'est passé à Éphèse. Si vous connaissiez Paul et que vous l'avez vu chasser des démons et que vous faisiez partie de son ministère et qui faisait de grands miracles, 30 ans plus tard, mettons que vous aviez 40 ans à l'époque où Paul faisait des miracles. Maintenant, vous avez 70 ans. Et la vie à l'époque, les gens mouraient plus jeunes que ça. L'Église a vieilli. Et les deux prochaines générations étaient là. Et les deux prochaines générations, c'était des petits-enfants qui étaient là. Et ils ont gardé la vérité. Ils venaient à l'assemblée. Ils étaient fidèles. Ils étaient occupés. Ils étaient impliqués dans toutes sortes de projets pour l'Église. Mais là, dans le cœur, ils avaient perdu un amour fervent pour Dieu. Ils connaissaient Dieu. Ils obéissaient à Dieu. Mais ils avaient perdu leur amour de la vérité. Mais ils connaissaient la vérité. Je l'ai connue depuis que j'étais enfant, n'est-ce pas? Ils se disaient. Mais ils ont perdu un certain amour les uns pour les autres. C'est une église qui fonctionne très bien. Comment est-ce que ça peut fonctionner s'ils sont condamnés pour avoir abandonné leur premier amour? Il n'y avait pas d'hérésie, il n'y a pas de faux enseignements. Voyez-vous, il est possible de connaître la vérité de Dieu. Il est possible chaque jour de la vivre, chaque jour, mais de ne pas l'aimer complètement. Dieu ne veut pas juste l'obéissance, il veut l'amour. Ces gens, voyez-vous, qui ont brûlé leurs livres publiquement, sachant que tous leurs voisins allaient penser qu'ils étaient fous, ils l'ont fait parce qu'ils aimaient Dieu. Ils l'ont fait par passion envers cette vérité. Et ils sont restés ensemble. Et ils sont restés ensemble lorsque les mauvais enseignements sont venus. Ils ont persévéré. Et 30 ans plus tard, les personnes âgées étaient fatiguées. Et tous les gens derrière eux, les deux générations derrière eux, ils connaissaient, ils avaient vécu cette vérité, ils l'avaient grandi en l'observant. Ça m'a pris tellement longtemps pour comprendre ce qui s'est passé en cette église. Pourquoi est-ce qu'ils avaient abandonné leur premier amour? Je l'expliquais, l'église d'Éphèse, l'histoire de la ville, et quelqu'un a fait un commentaire. La plupart des gens qui ont connu Paul étaient soit morts, soit très âgés. Et d'un seul coup, ça m'a éclairé. J'ai dit, c'est vrai, il a raison. La plupart des deuxièmes générations n'avaient jamais vu un démon être chassé. Ils n'avaient pas vu les choses que les gens du début ont fait. Ils l'ont cru, ils l'ont passé à leurs enfants. Mais à l'intérieur, quelque chose était perdu. En termes de leur amour envers Dieu. Pensez-vous, comment est-ce que cela peut arriver? Nous allons parler de cela dans une minute parce que nous allons nous demander s'il est possible que nous ayons ce problème. Il continue en disant au verset 6, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et le Christ dit, je viens vers vous et si vous ne vous repentez pas, il est possible que vous n'existiez pas en tant qu'église. Il n'aura pas dit qu'il n'irait pas dans le lac de feu, mais il leur a dit simplement que leur église disparaîtrait. Et ils avaient fait ça pendant 50 ans et ils n'avaient aucune fausse doctrine. Vous savez, il dit, mais tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Nous allons parler de ce groupe de gens dans d'autres, lorsque nous allons parler d'autres églises, parce que les Nicolaïtes avaient un effet très fort sur d'autres églises. Mais à Éphèse, ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Ils les ont laissés en dehors de nos congrégations. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec les Nicolaïtes. Toutes ces bonnes choses. Et pourtant, ce commentaire leur dit, vous avez quelque chose que vous avez perdu qui pourrait éventuellement faire de vous que vous n'êtes pas vraiment mon église. Et ensuite, il leur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Autrement dit, chacun d'entre nous, à vous qui lisez tout le message aux églises, à toutes les églises, il y a quelque chose pour nous dans toutes les églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il dit aux Éphésiens, vaincre, qu'il faut vaincre et vous aurez la vie éternelle. Regardez ce qu'il leur dit. Souvenez-vous, nous regardons au côté pratique l'histoire de cette église et ce que nous pouvons apprendre de cette message avant de regarder la signification prophétique. Il leur a dit, ceux parmi nous qui ont été dans l'église pendant depuis de nombreuses années, nous devons nous rappeler ce que c'était lorsque Dieu nous a appelés. Nous devons nous rappeler le sentiment de vivre cette voie de vie, quel que soit qui peut vous arriver. Vous aimez Dieu tellement. Vous aimiez Dieu, la vérité, tellement. Et savez-vous, voyez, il y a 50 ans dans l'église, nous nous aimions dans l'église. Beaucoup aussi. Nous étions solidifiés ensemble. Il y a une bonne cinquantaine, soixantaine d'années. Nous devons avoir cette passion d'être impliqués et de passer cela à nos enfants. Cet amour de la vérité, cette passion pour Dieu. Vous savez, vous les jeunes gens, vous devez comprendre ce que Dieu vous a donné. Et simplement le fait d'aller de venir à l'assemblée n'est pas suffisant. Vous savez, c'est tellement facile de rester à la maison aujourd'hui, de le regarder sur Zoom. Bien, s'il y a une raison ou si vous êtes isolé, qu'il n'y a pas le choix, bien entendu, il y a des circonstances. On doit aussi faire attention avec Covid et tout cela. Mais si vous dites, « Oh, je me suis levé aujourd'hui, j'ai eu l'impression que c'était bien, j'ai pris ma tasse de café, je voulais pas enlever mes pyjamas, j'étais confortable, vraiment relaxée, j'ai regardé le sermon sur l'Internet. » Est-ce que c'est ça, garder le sabbat, n'est-ce pas, se reposer, si vous n'avez pas le choix, c'est ça. Mais si c'est votre style de vie, votre façon de regarder le sabbat, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un choix, c'est une assemblée commandée. Nous devons avoir un amour pour Dieu. Et il est difficile parfois pour les deuxième et troisième générations d'avoir. Je me souviens ce que c'était de venir à l'assemblée en tant qu'enfant. Et je me souviens, parce que les églises étaient tellement petites et qu'on se sentait vraiment à l'extérieur de la société. Et je sais que c'était difficile en tant qu'adolescent. Soit vous aimez Dieu, vous apprenez à aimer Dieu, ou Dieu n'est pas quelque chose à qui vous pensez après coup. C'est comme ça que vous vivez chaque jour. C'est pas quelque chose que vous dites, ah oh oui, j'ai oublié de faire ça. Oui, je sais. Je le ferai. J'obéirai à Dieu demain. J'y ai pas pensé. J'ai oublié. C'est le fait de s'accepter en tant que famille de Dieu et de montrer un amour fervent les uns envers les autres. Mais d'aimer Dieu de façon tellement puissante que rien ne passe avant Dieu. Vous voulez savoir si vous êtes négligent envers la vérité? Je peux vous demander n'importe qui ici. Nommez les 10 commandements, nommez les jours saints et vous pouvez me donner l'information. Mais je vous dis quelque chose. Combien est-ce que vous aimez cela? Vous savez jusqu'à quel point vous pouvez mesurer cela? Combien de temps vous passez à étudier votre Bible? Combien de temps vous passez chaque jour? À quel point aimez-vous ce que Dieu vous a donné dans ce livre? C'est comme ça que vous savez si vous aimez Dieu. Nous savons par combien de temps nous passons dans ce livre. Et lorsqu'on ne permet pas à quelque chose d'autre d'interférer avec notre temps avec Dieu et dans sa parole. Alors on commence à pouvoir séparer entre je fais la vérité, je connais la vérité, je connais Dieu et j'adore Dieu et j'aime Dieu et j'aime la vérité. Ça, c'est deux choses différentes. L'Église à Éphèse nous dit cela. Vous pouvez faire toutes ces choses. J'aurais jamais pensé à ça. Mais c'est le message de l'Église d'Éphèse. J'ai une petite chose contre vous. Et si vous ne pouvez pas fixer ça, vous ne pouvez pas faire partie de mon Église. Vous avez perdu cet amour. Vous n'êtes pas passionné. Ce n'est pas un engagement complet à 100% à Dieu et à Jésus-Christ et à la vérité et à chacun d'entre nous. Oh, c'est plus amusant d'aller taper sur les Laodicéens, n'est-ce pas? Personne ne veut être Laodicéen, n'est-ce pas? Alors vous verrez quand on y arrivera que lorsque vous comprenez vraiment ce que les Laodicéens sont, vous vous direz, oh, je suis confortable, je serai confortable dans cette église. Vous seriez confortable avec les Laodicéens. Et je serai peut-être confortable avec les Éphésiens aussi. C'est le danger. C'est le grand danger. Il est dit, repentez-vous. Repentez-vous et l'humilité devant Dieu. Cela veut dire que si vous ne savez pas ce que cela veut dire, allez jeûner. Prenez un jour de congé et allez jeûner et prier et sortez votre Bible. Et si vous vous dites, je ne sais pas quoi lire, bien, allez demander à Dieu quoi lire. Laissez Dieu vous travailler. Laissez Dieu vous travailler pour que vous puissiez avoir une relation avec lui. Oh, j'ai pas besoin de jeûner, je jeûne pour le jour des expiations une fois par an. Repentez-vous. C'est tout au long de l'année. Et il dit, faites les œuvres, les premières œuvres. Ces gens avaient des projets, ils avaient des choses dans lesquelles ils étaient impliqués. Si vous allez à l'église d'Éphèse, ils auraient pris soin les uns des autres, ils auraient fait des choses pour la communauté, des choses qu'on est supposé faire, et ils les complémentent pour ça, ils leur disent, c'est pas suffisamment. Il leur dit, vous le dites parce que vous aimez ces gens et parce que vous aimez Dieu. Vous le dites parce que au centre même de qui vous êtes, c'est qui vous êtes. Ce n'est pas quelque chose juste que vous faites, c'est qui vous êtes, pas juste ce que vous faites. Le christianisme n'est pas juste nos actions, c'est ce que nous sommes. L'église d'Éphèse était une congrégation formidable. J'aimerais bien faire partie de cette congrégation active et pleine d'énergie. En fait, parfois, j'ai l'impression que j'en ai fait partie de cette congrégation. Avez-vous jamais été dévasté par une division dans l'Église? Est-ce que vous avez jamais entendu la vérité et vous vous sentez bien, vous avez votre famille, l'Église, votre famille, tout sera bien, tout va bien aller? C'est plus que ça. Ils avaient beaucoup de traits caractéristiques que le Christ leur fait des compliments. Ils avaient la vérité, ils se sont tenus contre ceux qui avaient tort, ils sont restés engagés les uns avec les autres et pourtant ils avaient perdu l'amour de la vérité et l'amour les uns envers les autres. Le souci pour l'œuvre. Le souci pour la vérité. Je lis cela et parfois je me demande, je me semble corrigée par le message aux Éphésiens. Pourquoi? Parce que nous devons tous nous sentir corrigés. Chacun de ces messages va nous apprendre quelque chose alors qu'on va les étudier. Parce que chacun de ces messages est un message pour chaque chrétien, chaque fois, partout dans le monde. En addition, en plus de son message prophétique, c'est pour chaque chrétien, partout dans le monde. La prochaine fois, nous allons parler du message de l'Église à Smyrne.